Venez, venez, entrez. Le Judaïka Culture Club a ouvert sa porte comme tous les lundis. Sa porte. D'habitude, je dis ses portes, mais en fait, on n'a qu'une porte dans le studio. Notre but est toujours le même, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Et là, il fait beau, il fait clair, on n'a plus d'excuses pour ne pas sortir. Franchement, c'est vrai. Hein.
Sauf quand on se prend une bonne pluie comme ces derniers
jours. Non, il n'y a pas.
Il n'y a pas d'excuses, ok.
Il n'y a plus de pluie, c'est terminé. Et le programme est toujours aussi varié, je suis toujours aussi fière de mes invités. Voilà, je présente une émission extraordinaire, je trouve. Et j'espère que ça vous donne plein d'idées. On va avoir ce soir, alors bon, en ligne, mais quand même, Peter de Calu, qui est le directeur de La Monnaie, qui sera interviewé par Dominique. Bonsoir, Dominique Corbio.
Bonsoir.
Voilà, qui s'y connaît bien plus que moi en opéra, et puis qui va nous donner envie de, j'espère, même si vous n'êtes pas des grands spécialistes.
C'est toujours une bonne idée d'aller écouter de l'opéra, écouter de la musique, de toute manière.
Voilà, et vous nous direz comment on fait pour avoir des places,
oui.
Parce que c'est pas facile quand même.
On demandera, monsieur le directeur, il nous dira, donnera toutes les bonnes astuces.
Ok, super. Alors... De la musique, on va passer à l'humour avec Michaël Dufour, bonsoir.
Bonjour tout le monde.
Qui était déjà venu nous voir à une période très particulière, c'était pendant le Covid.
Oui, oui. Je suis venu voir avec un spectacle, on jouait dans les jardins.
C'est ça, les gens restaient chez eux et vous étiez dans les jardins.
Voilà, et maintenant il faut qu'ils sortent, allez on sort maintenant.
Voilà, on repart sur du plus traditionnel au niveau des lieux, mais peut-être pas du spectacle, c'était un nouveau spectacle.
Oui, ça s'appelle
Enfin, le
coup de pelle.
Combien de fois vous avez joué l'autre ? Est-ce que je peux dire le titre de l'autre ?
Oh non, dites l'autre. Mais elle continue, l'autre continue, l'autre pièce continue. On doit à 2000 une chiclette, oui.
Donc c'est Faites l'amour avec un Belge. Je ne sais pas si ça vous a donné plus de conquêtes. On le saura tout à l'heure.
Écoutez, je peux vous raconter toute ma vie, mais j'ai rencontré ma compagne dans la salle.
Bon, magnifique. Et puis on repart avec de la musique. Jérémy Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Donc là, on est plus dans le jazz.
Voilà, tout à fait.
Avec un quintet.
Avec un quintet.
Vous allez nous expliquer combien d'instruments il y a.
Donc il y en a, on est cinq, comme le nom l'indique. C'est avec un saxophoniste new-yorkais assez extraordinaire qui s'appelle Godwin Louis, un trompettiste belge, Jean-Paul Stevenard. Et puis on est en trio derrière, donc piano, basse, batterie. Avec Jérôme Portal à la contrebasse et Arvel Nakundi qui vient aussi de Miami, qui est un batteur extraordinaire. Et voilà, on joue
et
des compositions.
Et ça déménage. Et tout ça au Centre culturel Ducle.
Voilà, au Centre culturel Ducle, le 12 avril.
Voilà. Et puis dans un tout autre genre, mais toujours au Centre culturel Ducle, comme quoi c'est vraiment... Ça porte bien son nom, il porte bien son nom, hein, ce centre culturel. Donc Audrey Dérault, comme
ça, oui,
on présente
comme ça.
Ça.
Dit,
voilà,
oui.
Pour un spectacle jeune public.
Qui s'appelle L'Agneau.
Qui s'appelle L'Agneau, voilà. En un mot.
Oui, l'agneau en un mot, parce que c'est le nom qu'on a donné, le prénom qu'on a donné à notre agneau. Voilà, c'est un spectacle pour les tout-petits à partir de 3 ans.
Et qui part du tableau
de Jan van Eyck, l'agneau mystique.
Et l'agneau a disparu.
L'agneau a disparu, il est parti dans une autre peinture.
Magnifique, voilà, donc on en a vraiment pour tous les âges, pour tous les styles. Et puis on va commencer avec, si tout va bien, et s'il est là, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien ?
Moi, je vous
entends. Ah, super.
Parfait.
Je suis très, très heureuse de vous avoir en ligne. Et je vais passer la parole tout de suite à Dominique Corbio, qui va faire ça bien mieux que moi.
Oui, donc ce soir, nous recevons Peter de Calu, directeur du Théâtre
bonjour.
Royal de la Monnaie. Bonsoir, Peter. Et donc, vous allez nous parler de Rivoluzione e Nostalgia, un spectacle qui s'articule en deux soirées et qui réunit de très beaux passages musicaux extraits des 16 opéras de jeunesse de Giuseppe Verdi pour former la trame d'une toute nouvelle histoire. Le récit qui se focalise sur deux périodes, à savoir la fin des années 60 pour Rivoluzione et le début du 21e siècle pour Nostalgia, explore le sentiment de camaraderie, le tumulte de la jeunesse, la violence, la défense de certains idéaux qui parfois sont ensuite abandonnés au profit d'un certain confort matériel. Et les différents protagonistes, séparés par la vie mais unis par leur passé commun, tentent de distinguer le vrai du faux dans leurs souvenirs, notamment au travers de véritables interviews filmées et projetées sur grand écran en contrepoint de l'action scénique. Peter de Calué, c'est Christian Lada qui signe la dramaturgie, la mise en scène, les décors et la vidéo de cette production, mais vous êtes vous-même très très impliqué créativement dans ce type de projet que vous souhaitez développer à La Monnaie. Je pense notamment à la production Bastard à la saison dernière qui était déjà construite sur le même mode.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que j'appelle ça le remix. Le remix, c'est-à-dire d'utiliser des partitions existantes et de leur donner un nouveau cadre dans lequel ils peuvent briller autrement. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec ce Verdi. L'idée m'est venue, en effet, quand j'étais en voiture avec un chanteur qui commençait à chanter un air, l'air du ténor de La Battaglia di Legnano, et je me disais, cette musique est tellement belle, je la connaissais, mais je me disais, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais est-ce qu'on veut vraiment écouter tous ces opéras de Verdi, tous ces opéras qui sont assez longues et qui ont une forme dramaturgique assez faible, mais qui ont de la musique magnifique. Et donc, c'est là où j'ai commencé l'idée de réfléchir ce pasticcio, c'est-à-dire de choisir plusieurs airs, ensemble, trio, finale, ouverture, chœur de ces 16 premiers opéras de Verdi. Et oui, c'est vrai que c'était aussi basé sur un constat, disons que nous sommes tous, quand nous sommes jeunes, nous avons tout un côté révolutionnaire, on veut se battre pour quelque chose, on veut réaliser des changements dans la société, on veut se battre pour des idéaux. Évidemment, à la fin de notre vie, ou quand on arrive à un certain âge, pas peut-être à la fin, mais on devient peut-être un plus conservateur, parce qu'on veut en effet défendre tout ce qu'on a acquis. Et c'est tout à fait normal. Et ça s'est passé aussi avec Verdi. Verdi qui était dans son temps considéré le grand révolutionnaire de la musique, mais aussi qui était un homme politique de premier ordre, parce qu'il était le symbole pour l'unification de l'Italie qui était encore sous les Autrichiens.
Et sa musique a toujours été utilisée aussi comme symbole patriotique.
Toujours ses chœurs patriotiques, etc. Même s'il basait ses opéras aussi, la thématique de ses opéras n'était pas italien, c'était toujours un appel à la révolte, au peuple qui se lève, qui défend le pays, qui défend la croyance. Donc c'est vraiment toujours, les grands chœurs de Verdi sont toujours... ont toujours ce côté révolutionnaire. Et c'est de ça qu'on a voulu faire une nouvelle histoire. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, on est en 68, on a ces idéaux, on se bat, on va même, on quitte même la révolution, la révolte non violente, et on choisit pour la violence. Et puis, évidemment, il y a la femme qui est en effet la leader de la révolution, notre Laura, elle meurt. Et puis, 40 ans plus tard,
ce sont les souvenirs.
Vont se revoir et vont revivre ces souvenirs et vont être confrontés avec qu'est-ce que nous avons fait, quelle est notre responsabilité dans la mort de Laura, mais aussi qu'est-ce que nous avons gardé de 68, quels sont encore nos idéaux aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, c'est une interpellation assez humaine, c'est des questions qu'on se pose tous à un certain âge. Et voilà, on a essayé de créer cette histoire autour de cette magnifique.
Et donc, vous parliez du répertoire. Donc, on a donc la chance d'entendre quelques très beaux moments connus de Verdi, mais aussi beaucoup d'extraits d'opéra de jeunesse qui ne sont pas souvent joués. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la distribution qui réunit aussi une troupe de chanteurs qui est tout à fait rompue à cette musique et très exigeante vocalement?
Oui, tout à fait. On a en effet voulu créer le triangle verdien, c'est-à-dire ténor, soprano, baryton, comme toujours dans tous les opéras de Verdi.
Le baryton qui empêche la soprano de tomber amoureuse du ténor, quoi.
Donc c'est... Ouais, exactement. C'est exactement ce qui se passe toujours dans les opéras de Verdi. Et donc, nous avons dans la deuxième partie, ils sont tous plus âgés, et là on a changé les types de voix, mais nous avons une belle distribution en effet avec Nino Machaidze qui chante le rôle de Laura, et qui est magnifique parce qu'elle a tous les grandes scènes de Louisa Miller, de Giovanna d'Arco, de Due Fosse. Il y a énormément de choses qu'elle chante, énormément de grandes scènes qu'elle nous offre. Très, très beau d'ailleurs. Et le ténor, c'est Agnès Cala qui fait ses débuts dans ce répertoire jeune Verdi. Baryton, Vittorio Prato, même pour lui, il chante ses pièces pour la première fois. Et donc, c'est évidemment des gens qui ont chanté plusieurs fois à la Monnaie qui font leur début dans ces nouvelles conditions.
Mais vous êtes en général assez fidèle avec les chanteurs que vous engagez. Vous aimez les faire revenir pour suivre leur évolution vocale aussi.
Exact. C'est exactement ça. Donc, de leur offrir la chance aussi de débuter dans un répertoire qui est nouveau pour eux. Et ça motive énormément. Parce qu'on offre quand même une période de répétition assez longue, une préparation assez intense avec un music staff, avec des coachs, etc. Donc c'est le moment idéal pour commencer ce nouveau répertoire. Il y a aussi une jeune chanteuse polonaise, Gabriela Legun, qui
oui, ça c'est. J'avoue que c'était mon coup de cœur de la soirée. Ouais. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose.
Ouais. Je crois qu'elle va avoir une très très grande carrière. Je l'ai connue dans mon concours à Portofino, qui est un concours de chant qu'on fait chaque été. Et il y a déjà de très très belles voix qui sont issues de là-bas. Il y avait là-bas Justin Hopkins, lui aussi très grand acteur, performer, aussi pour lui, Verdi était nouveau. Et évidemment, dans la deuxième partie, tout le monde est plus âgé, la jeune Gabriela Lagune revient, mais comme la fille de sa maman. Elle était d'abord Christina, mais dans la deuxième pièce, elle est Virginia. J'ai choisi d'ailleurs les deux noms des enfants de Verdi, Virginia et Cilio.
Un petit clin d'œil.
Un autre ténor, voilà, qui est Pari de Cataldo, qui est l'artiste dans la deuxième pièce, qui crée l'installation dans la galerie et qui...
La deuxième soirée se passe dans une galerie d'art, en fait. Donc, c'est important aussi.
Dans une galerie d'art.
Où il y a une réflexion aussi artistique sur la révolution.
Voilà, parce que c'est un concept, c'est conceptuel, mais c'est en effet la barricade qu'on a vue dans Révolution et où meurt aussi Laura.
Qui devient une installation.
Ouais. Voilà, qui est devenue une installation. Mmh. Et donc, c'est en effet aussi une provocation parce que ceci, combiné avec la vidéo que Christina a fait, ça confronte les trois protagonistes avec leur passé. Et donc, en effet, les chanteurs sont devenus, le ténor est devenu baryton, comme ça se passe très souvent. Hein. Aujourd'hui, Placido Domingo, qui était ténor avant, et maintenant il chante des rôles de baryton. Le baryton est devenu basse, et la basse, disons, on a donné à un acteur.
Ils chantent plus du tout, après basse, il n'y a plus rien.
Ils chantent plus du tout, voilà. Donc c'est Scott Hendricks qui reprend le rôle de Carlo, puis c'est Giovanni Battista Parodi qui reprend le rôle de Giuseppe, et il a à nouveau Gabriela Lagune, et puis on a ajouté la galeriste, la dame Donatella, qui est la hôtesse de la soirée.
Et qui fait des scènes de Lady Macbeth absolument impressionnantes.
Exactement, exactement.
Et alors, évidemment, idéalement... Excusez-moi. Idéalement, ce serait d'assister aux deux soirées, mais si certaines personnes n'ont l'occasion que d'assister à une des deux, ce qui est tout à fait faisable en termes de compréhension de l'action d'ailleurs, comment qualifieriez-vous en quelques mots chacune de ces deux parties, afin qu'éventuellement les spectateurs puissent faire leur choix en fonction de leurs affinités personnelles?
Ben, la première partie est vraiment un opéra verdien, un nouvel opéra verdien. Où on a vraiment respecté ouverture, grand chœur au début, air, duo, trio, vraiment ce passage entre le bel canto et le jeune Verdi. Donc c'est vraiment très, avec beaucoup d'énergie, des fragments assez courts aussi, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'émotion.
Et tous les codes verdiens sont présents en fait.
Et tous les codes verdiens sont présents. La deuxième série, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus conceptuelle aussi. Elle est beaucoup plus intimiste dans un sens. La musique est beaucoup plus nostalgique. Voilà, c'est le titre.
Et un approfondissement psychologique aussi plus intense, peut-être.
Absolument. Les airs sont beaucoup plus longs, les scènes sont beaucoup plus longs, beaucoup plus intenses. C'est vraiment les grandes scènes de Nabucco, de Macbeth, de Attila. Donc vraiment les grands moments d'introspection des personnages principaux. Et donc aussi les grands airs que Donatella chante, l'air de Stifelio, l'air de Lady Macbeth, les deux airs de Lady Macbeth.
La scène de somnambulisme notamment, qui est très impressionnante.
Ouais, qu'elle a fait très très bien, c'est vrai.
Et donc, ça va être, je pense, le moment tout doucement de nous quitter, mais je voudrais évidemment parler des chœurs, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, ils sont très présents. Verdi, c'est les grands passages chorales, et ouais. les chœurs de la Monnaie sont très sollicités, ils font ici un travail vraiment formidable. Et donc, je vous propose peut-être, en illustration de ce double spectacle, d'entendre le fameux Va Pensiero, donc le chœur d'esclaves, extrait de l'opéra Nabucco, avec lequel s'achève Nostalgia, donc la deuxième soirée. Ils sont bien entendu accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, sous la direction de Carlo Gonstein, qui est le directeur musical sur ce projet. Peter de Caluem, merci beaucoup pour votre présence et tout le succès pour la suite des représentations.
Merci beaucoup.
Okay. Merci. Merci.
Alors Dominique, quand est-ce qu'on peut aller voir ces beaux, deux beaux spectacles?
Voilà, donc c'est à voir maintenant jusqu'au 7 avril et toutes les infos sont bien sûr disponibles sur le site lamonnaiedemunte.be.
Bon, en tout cas ça donne envie. Et sinon, il reste les... on appelle ça encore des CD on
a, enfin, oui, ça existe toujours, Dieu merci, oui. Tu dis ça comme si c'était une, presque de la spéléologie. Ou de la...
Pas, oui.
Non, non, ça existe toujours. En musique classique, on utilise toujours le CD physique. Heureusement, ça existe toujours. Il n'y a pas que, pas que du MP3. On aime la qualité du son quand même.
Bah, donc, on va écouter peut-être après. Tu nous
en jazz aussi, il y a beaucoup de... Il y a même des vinyles
même
en jazz.
Il y a des vinyles, non?
Donc, ouais, oui. Heureusement, ça continue.
Bon, et alors, il fut un temps d'ailleurs où les humoristes ont acheté aussi des DVD et on regardait les humoristes.
Moi, j'ai rien compris. Moi, vous parlez de CD, de vinyles. Je suis désolé. Je Spotify.
Non mais c'est vrai, il fut un temps où on avait les DVD de Gad Elmaleh et tout ça, des humoristes.
Non, c'est Gad Elmaleh qui avait les DVD des autres.
Oh, mauvaise langue.
Mais maintenant, ça n'existe plus, quoique il y a peut-être d'autres choses, des choses plus brèves, non?
Mais moi, en tous les cas, j'ai fait juste la captation du spectacle fait à moi avec un Belge parce qu'on me l'a demandé pour la diffuser en télé. Mais sinon, je suis pas pour de filmer en fait du spectacle. Je trouve que c'est un art vivant. Moi, j'ai besoin d'être sur la scène et de voir le public, de le toucher. Et donc, je suis pas fan. Dans le spectacle que je vois énormément de spectacles. Je vois du spectacle vivant. Je ne prends pas même en télé, je regarde pas le théâtre en télé, je ne préfère pas, j'ai besoin d'avoir cette dimension avec le spectateur.
Bon, alors, allons-y pour ce nouveau spectacle. Ça y est, on finit, c'est pas moi qui ai prononcé le mot « Faites l'amour avec un Belge », vous l'avez dit.
Non, mais il n'est pas fini, mais ça, c'est, vous savez, il continuera toute ma vie et d'autres reprendront la pièce, et c'est pas grave, et tant mieux, mais c'est vrai que maintenant, moi, je me concentre sur le coup de pelle, qui est une nouvelle comédie à deux personnages, où je suis avec Stéphanie Spielberg, donc la petite fille de Steven Spielberg, qui va se poser dans un hôtel de montagne, un hôtel très, très pourri, très, très étrange, et moi, je serai le réceptionniste. Elle veut écrire un bouquin, c'est compliqué pour elle d'écrire ce livre, et moi, je suis prêt à tout pour qu'elle réussisse à écrire ce bouquin. Comme c'est la petite fille de Steven Spielberg, lui veut absolument mettre les codes des films de Spielberg. Donc c'est une comédie qui fait peur qui va surprendre en fait le spectateur. Alors ça, c'est pour le pitch, mais évidemment il y a pas que ça, ce serait trop facile. Il y aura aussi les comédiens qui vont surprendre en fait le public, c'est-à-dire que le spectateur va se demander si on n'est pas fou. Et nous, on va se comprendre que le public est aussi fou que nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un pétage de plomb. Appelons ça comme ça, on va casser le quatrième mur. Et le public va avoir un rôle. Évidemment, ça ne va pas être si simple que ça. Ça va vraiment, il va y avoir des apartés dans la pièce où les gens vont se demander s'ils sont dans la pièce ou s'ils sont dans le théâtre. Et pour nous, c'est jouissif, évidemment, de jouer ça. Alors, c'est pas si facile que ça, parce qu'on doit rester on est un comédien, et puis on est le personnage. Et donc, on s'en amuse énormément, mais évidemment, ce n'est que de l'humour. Et donc, le public nous le rend bien, parce que c'est vraiment ça. Il y a vraiment un fou rire général qui démarre à un moment donné, quand tout le monde a compris où on allait, et ils sont avec nous. Et comme la fin du spectacle n'est pas réellement écrite, c'est le spectateur qui va nous aider à terminer la pièce. Donc c'est une pièce aussi assez sociale, puisqu'on va aider les gens, parce que vous savez, on a tous des collègues de bureau, des gens qu'on n'aime pas, on se demande comment faire pour les éliminer, et donc on va aider les gens à pouvoir cacher des cadavres, donc à savoir si on peut enterrer son voisin dans son jardin. Donc tout le monde se pose là. Bon, on répond à ce genre de questions.
D'où l'appel.
Est-ce qu'on peut mettre un cadavre dans un compost? Donc tout ce genre de questions que tout le monde se pose tous les jours, on est là pour vous aider. Donc dans cette pièce, on vous aide à cacher des corps. Et ça, c'est important.
D'où l'appel.
D'où l'appel, évidemment. Je ne vais pas raconter ce qui va se passer avec cette pelle, mais pour la petite histoire, cette pelle fait vraiment partie du spectacle. Alors, cette pelle aussi, puisque vous me lancez sur la pelle, sachez que juste avant de venir...
Vous êtes le premier invité à venir en studio avec une pelle.
Je viens toujours avec cette pelle. Pourquoi je viens avec cette pelle? Parce qu'en fait, vous savez, dans tous les spectacles qu'on a fait, on essaie toujours de faire parler un peu de soi, parce que moi, mon but, c'est de faire des spectacles et d'avoir du public dans la salle. Et donc, encore aujourd'hui, et d'ailleurs, on s'est croisés tout à l'heure dans Bruxelles, on distribue des pelles, on cache des pelles dans chaque ville où on joue. Et donc là maintenant, à Bruxelles, il y a une dizaine de pelles qui sont déposées quelque part. Il y a un QR code. Vous allez sur Instagram ou sur Facebook ou via le QR code. Et vous allez pouvoir en fait avoir des informations et sur la pièce, et aussi certaines personnes qui vont nous envoyer l'appel qu'ils ont retrouvé vont recevoir une bouteille de champagne, le restaurant, une nuit d'hôtel et deux places de spectacle. Et donc ça, on le fait dans chaque ville, donc ça nous coûte un pont, mais on le fait. Alors tout le monde ne trouve pas les pelles, et tant mieux. Mais dans chaque ville, on le fait.
Tout le monde ne comprend pas, ils trouvent la pelle. Mais...
Non, mais on le met sur Facebook, où il y a des gens qui... Voilà, j'avais fait ça avec Fêtement à Kermel, j'en avais caché des bières un peu partout.
C'est comme les Pokémon, finalement.
Mais exactement, exactement. Je n'ai rien inventé, mais à part que ce n'est pas du virtuel. Vous avez vraiment
une pelle cachée quelque part,
et vous avez vraiment des surprises. Parce qu'en fait, la pelle fait partie vraiment de la pièce. Évidemment, c'est une pièce d'horreur qui fait rire. Il y a une pelle, vous imaginez bien, la pelle ne va pas rester très très sage dans le spectacle.
C'est ça. Elle va peut-être servir à cacher un décor.
Peut-être pas, mais après, c'est aussi le public qui va décider qu'est-ce qu'on fait avec...
Elle a une vie propre, il y a le gluon de la pelle, comme dans Téléchat, c'est ça?
Ah, j'aime beaucoup Téléchat, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision dans... Donc autant c'est une pièce de théâtre avec un pitch, une histoire...
Deux personnages.
Deux personnages, mais évidemment qu'il y a énormément d'autodérision et que... À certains moments, quand on casse le quatrième mur, les gens ne savent absolument plus où ils vont se situer. C'est vraiment une pièce pour des références Kinder Surprise. Mis à part que dans l'œuf, on sait qu'il y a une surprise et que parfois dans la pièce, mais on ne sait pas quelle va être la surprise. Et c'est ça qui est assez fort. Et donc, c'est vrai que je vous embrouille un petit peu, mais je pense que la pièce est assez originale pour ça. Enfin, c'est un peu... Si vous avez vu Fêtement à Kermel, ou qu'on a joué dans les jardins, ou qu'on a fait un théâtre maton, si on jouait dans un théâtre maton pendant le Covid, on jouait dans une boîte, et les gens pouvaient venir nous voir, mais pas nous toucher, parce qu'il y avait le Covid. Donc tout est vraiment décalé. Et donc la pièce sera bien évidemment décalée, avec la tradition dans mes pièces, toujours l'humour et le rire de toutes les 10 secondes.
Donc en tout cas, on peut vous voir le 18 avril à Oudergem, c'est ça?
Oui, allez-y, parce qu'il reste, je crois, 20 places, parce que j'ai téléphoné tout à l'heure, donc il n'y a plus beaucoup de places. Mais par contre, on va revenir en décembre encore à Bruxelles. Et puis de toute façon, on est partout dans tous les centres culturels en Belgique. On sera également au Festival d'Avignon tout le mois de juillet. Et on commence aussi en France, on sera en Suisse. Mais bon, si vous êtes à Bruxelles, il reste 20 places au Centre culturel d'Oudergem, mais on revient au mois de décembre, si je ne me trompe pas, ils m'ont dit tout à l'heure, je crois que c'est le 28 décembre. Donc,
on a le temps voilà.
Y aura de la place.
Donc cette pièce-ci, vous l'avez déjà jouée?
On l'a jouée, on l'a rodée pendant un an à Lille.
Ah oui,
dans un théâtre. On l'a jouée tous les vendredis et tous les samedis. En fait, les humoristes français viennent roder leurs pièces. Oui. En Belgique, moi, je réserve la qualité pour la Belgique. C'est-à-dire que je vais roder en France, et une fois que c'est bien rodé, eh bien, je trouve que le public peut venir voir une pièce de qualité. Et donc, c'est bien rodé, on sait où on va rire, on a déjà eu nos couacs, on a déjà eu... Parce que vous savez, c'est un spectacle très interactif, et donc, évidemment, les Français sont aussi très forts en répartie. Et donc, voilà, maintenant, on est prêt. C'est carré, et donc c'est pour ça que...
Alors,
maintenant...
est-ce qu'il y a de la musique dans le spectacle?
Ah ben évidemment qu'il y a de la bonne musique. Alors évidemment, comme c'est à la montagne, on a mis des musiques autrichiennes, donc c'est très très décalé.
Il y a du yodel.
Et donc, oui, et il y aura même des danses. Et donc, comme je suis un très mauvais danseur, ça devient très rire et très, très décalé.
Bon, alors, donc, il y a de la musique. Est-ce qu'en musique, Jérémy, est-ce qu'il y a de l'humour dans la musique?
Mais en tout cas, moi, j'ai accompagné pendant longtemps une pièce de théâtre avec laquelle on a fait Avignon aussi.
Laquelle?
Une année, l'Audition, ça s'appelait. Ils étaient deux avec Mohamed Ouachen et Caroline Faust. Et j'ai joué au piano dans cette pièce pendant quelques années. Donc, c'était une belle expérience aussi.
Oui, il y a beaucoup de... Alors, est-ce qu'il y a de l'humour à l'opéra?
Et les opéras, c'est gentil de me poser la question. En plein bonbon.
Je le dis, il mange tous les bonbons.
Je me suis dit, j'ai fait mon interview, je peux manger un bonbon. Mais... oui, il y a des opéras comiques, bien sûr.
De toute façon, l'humour, c'est le rythme. Hein.
L'opéra
rythme,
bouffe.
La musique, donc,
Tout l'opéra italien est basé, tu sais, sur la commedia d'arte.
C'est donc, ça, tout est exagéré.
Tout à fait, c'est les émotions au centuple. Donc l'humour aussi.
Oui, c'est ça.
Mais en fait, l'humour, c'est la surprise. Et la musique, c'est aussi la surprise. C'est-à-dire que notre cerveau, il fonctionne comment? Quand on voit quelqu'un qui court pour prendre un bus, le cerveau, il a déjà compris qu'il a besoin de courir pour prendre le bus. Mais là, on va tomber. On va rire, parce que on est surpris, parce que on fait le chemin inverse. Et en musique, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça. Le rythme, on est surpris, parce qu'à un moment donné, il y a une partition de guitare qui débarque, ou de piano, surtout dans le jazz, l'improvisation. On est secoué, je pense que le mot à la musique...
Évidemment, ouais.
Oui.
Dans les
nuances.
Oui, et puis il y a aussi une sorte de partage avec le public. Parfois, le public est dans la connivence, mais pas l'autre acteur. Enfin, on joue avec ça aussi, non?
Mais On essaie en tous les cas, c'est certain que comme on est nous deux personnages, le public va choisir évidemment qui est le clown blanc et qui est le clown noir. Et parfois il se trompe et on renverse la vapeur. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de pièces de spectacle, c'est, bah, je vous dis, c'est la surprise. En tout cas moi dans mon humour, je trouve que la surprise, il y a rien de plus jouissif quand on emmène le public vers une direction et puis c'est pas du tout là qu'il doit aller. Et alors là c'est vraiment parti pour des fous rires.
En tout cas ça donne vraiment envie.
C'est gentil.
Alors ça change aussi des stand-up, parce que ça, il y a énormément pour le moment. Par contre, des pièces comiques, il y en a moins.
Je ne sais pas du stand-up, c'est et ça. Puis je ne voulais absolument pas aussi de pièces sur le couple, parce qu'évidemment, j'en ai fait une, et il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà. Alors, ce n'est pas si facile que ça, parce que je trouve qu'il y a plein de pièces qui sont très fortes et très, très bonnes. Et donc, se réinventer et créer une pièce à deux personnages, une pièce de théâtre, la barre était haute. Et donc, ben, voilà, on verra si c'est réussi. La pression est là, parce que c'est vrai que jouer en Belgique dans des grosses salles...
C'est ça, vous ne commencez pas petit, là, en Belgique. Donc,
Oui, on y va. On a un public, on sait qui va être là. Après, je pense qu'on va essayer de les découvrir et de les surprendre.
Allez, génial. En tout cas, donc on peut éventuellement, peut-être, si on se dépêche, vous voir donc le 18 avril.
Oui, sinon on sera aussi après pour ceux qui vont. Il y a Nivelles, il y a Liège, il y a Spa. Vous allez sur la page Facebook, le coup de pelle. Vous tapez le coup de pelle, il y a plein de...
D'accord, et on a toute la liste de tous les liens.
Et puis il y a les liens, vous avez directement sur nos liens d'informations.
Et puis sinon, on trouve une pelle, alors là, on trouve
des places. Et si vous trouvez une pelle dans Bruxelles, et je vous dis, il y en a une dizaine, elles ont été déposées aujourd'hui, vous avez deux places, on a réservé chaque fois deux places, vous avez champagne, la nuit d'hôtel, tout est prévu.
Donc il y a une indication, c'est que dans le quartier de la radio... Quelque part.
Mais alors, on va vous aider de temps en temps. Vous êtes sur la page Facebook Mickaël Dufour ou Solène Delannoy. Solène Delannoy, c'est la comédienne avec qui je joue, qui est exceptionnelle. Elle mesure 1m90 déjà. Donc, quand elle me parle, déjà, il y a une pression. Elle est incroyable. Elle a des bras énormes, des bras de 8 mètres. Et donc, déjà, elle fait très, très peur quand elle ouvre ses bras. Et donc, avec elle, on met des informations sur Facebook, sur Instagram. Petit à petit, si on sent que les gens n'ont pas
Facebook,
trouvé les pelles.
Facebook, toujours le coup de pelle.
Oui, Facebook, le coup de pelle, ou Mickaël Dufour, ou Solène Delannoy, également sur Instagram. Et petit à petit, avant la date, on met des informations. Là, j'ai pris une photo, évidemment, où était l'appel. Et donc, voilà. Il y en a une dizaine. Généralement, ils vont au moins en trouver deux, trois, minimum.
Génial.
Voilà.
Alors, on va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute? Classique, de
les Beatles, All You Need Is Love. Je suis obligé. Oui, bon, j'aime bien le. J'ai toujours bien aimé les Beatles. J'ai toujours bien aimé les buzz qu'ils ont fait, jouer sur un toit ou John Lennon qui était dans un lit qui recevait la presse. Ce genre de truc, c'est un peu mon école. Et donc voilà, comme j'aime beaucoup le groupe, j'aime l'union. Je trouve que en plus on parle d'amour dans cette chanson. Donc c'est.
On écoute avec plaisir. You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. À l'autre, au passage de et son quintet.
Bonsoir.
Ou est-ce que les Beatles ont été une inspiration à un moment donné?
Bien sûr, la musique des Beatles est tout à fait incroyable, surtout pour les jazzman, je pense pour toutes les musiques.
Pourtant, musicalement, ça a l'air assez simple.
Si on s'y attarde, il y a plein de compositions très intéressantes.
Qui était le pianiste alors chez les Beatles?
Par exemple, All You Need Is Love, c'est en 7, pardon?
Qui était le pianiste?
C'était...
McCartney.
Hein. McCartney, il jouait de la guitare aussi. Hein.
Oui. Ça, mais ils étaient tous un peu multi-instrumentistes.
C'est lui qui le tenait.
Ouais. Est-ce que c'était un vrai piano ou c'était déjà les synthétiseurs?
Il y avait des Korg à l'époque, non pas ça.
Vraiment le premier piano des Beatles, il est comme ça. Moi, je l'ai fait venir à Ittre. On a fait les 24 heures Beatles il y a 30 ans d'ici. On a fait venir ce petit piano, il n'est pas plus grand que ça. Et puis enregistré à deux ou quatre pistes. Enfin, c'est incroyable
les harmonies dans les voix aussi.
Et les premières chansons des Beatles étaient un peu plus simplistes avec des accords, mais l'album Sgt. John's Pepper, c'est un truc de malade.
Bon. Et le premier piano de Jérémy, alors il était comment? C'était un vrai piano?
J'avais un piano à la maison.
Ça a commencé à quel âge?
La musique, ça a commencé tôt, mais pas avec le piano. Pour le coup, j'ai fait un peu de violon quand j'étais plus jeune. J'ai chanté un peu à la chorale de RTBF quand j'étais petit.
Ah, moi aussi, avec Evelyne Desnoyer.
C'est possible.
Ouais, c'est peut-être pas la même génération, ouais. Mais moi, j'ai la maîtrise de l'RTBF. Moi aussi, j'étais... C'est peut-être croisé.
Et puis le piano, c'est venu plus tard, vers 12-13 ans. Mais
En commençant par du classique.
En commençant par du classique, avec Karine Lechner, qui est une concertiste.
Sœur de Sergio Tempo.
Sœur de Sergio, tout à fait. Et voilà, du fil en aiguille, puis j'ai accroché. Mes parents écoutaient toujours un peu de jazz et pas mal de différentes musiques, mais du jazz aussi. Et petit à petit, j'ai accroché en écoutant un jour un disque de Bill Evans avec Jim Hall, Undercurrent, en duo. Et inconsciemment, je pense que c'est ça qui m'a mis dedans. Et puis petit à petit, dans mes études, j'étais en humanité artistique à Charleroi. Ça, c'était toujours en classique, évidemment. Et puis, j'ai commencé le jazz petit à petit. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait le jazz studio une année à Anvers. Et puis, j'ai fait le conservatoire royal à Bruxelles avec Eric Lénini. Et puis, voilà, j'ai voyagé. J'étais à New York. J'ai fait deux albums différents. J'ai rencontré plein de gens. Et voilà.
Et maintenant, c'est le quintet de Jérémy.
Et là, c'est le quintet avec qui j'ai enregistré déjà quelques années et qui on a déjà tourné plusieurs fois. Mais ici, qui revient avec... La dernière formation que j'ai, donc j'ai un peu changé la rythmique. Cette fois-ci, c'est avec Jero Portal et Arvel Nakundi, qui sont... Jero Portal, qui est un incroyable contrebassiste français, qui joue avec des grosses pointures comme Jackie Tarasson, etc., qui sont des jazzman les plus connus. Et Arvel Nakundi, qui est vraiment un batteur extraordinaire. Donc, il faut vraiment... ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez même aller le voir sur les réseaux, etc. Arvel Nakundi, qui vient de Miami, qui est d'origine haïtienne, comme le saxophoniste Godwin Louis, qui est mon invité de marque, vraiment, avec qui j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de musique. Et il est vraiment extraordinaire. Il donne cours à Berklee College of Music à Boston, quand même une grosse école.
Vous faites pour vous rencontrer?
On se rencontre sur la tournée, hein, toujours. On se rencontre sur la tournée, soit je l'appelle pour des concerts, parfois il m'appelle pour des concerts.
Et au niveau du choix musical, donc c'est vous qui choisissez
Mais là, pour le coup, c'est ma tournée, donc c'est plutôt ma musique, mais après, on va jouer un petit peu sa musique aussi, qui a plein d'influences différentes dans sa musique. Il voyage énormément en Afrique, il y a plein de musique aussi, des traditions haïtiennes, etc. Mais ça reste vraiment jazz, à la base, c'est un saxophoniste de jazz. Mais il y a plein de racines derrière différentes.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est du jazz, en fait? À quoi on peut définir que c'est du jazz?
Déjà, on peut dire qu'il y a une grosse partie de la musique qui sera improvisée, dans le sens, ce n'est pas une improvisation libre non plus. On joue sur des structures qui existent, mm-hmm. des morceaux, il y a des mélodies, et puis en fait, on réinvente, si vous voulez, une mélodie sur la structure du morceau, tout en l'improvisant, sur le coup. Donc voilà, il y a une... Et on échange tous sur le moment, en fait, un discours, une...
C'est une conversation.
Une conversation, si vous voulez.
Ça doit être hyper jouissif.
Parce qu'il y a c'est aussi teinté de swing, qui est un peu la base du jazz. Il n'y aura pas que du swing, pour le coup. Il y a des compositions... peu plus moderne, il y a aussi voilà des retours aux racines plus africaines, cubaines.
Ça veut dire rythmé?
Oui, ce sera très rythmé, ça c'est sûr.
Mais sans chant, il n'y a pas de chant.
Il n'y a pas de chant proprement dit. Quoi qu'il y ait une composition où on chante un peu derrière, mais ce sera la surprise.
Qui va écouter du jazz de temps en temps, la musique?
Moi j'aime J'aime bien les jams, c'est dans les jams qui font des...
Des jams,
c'est ça. Des jams qui font ouais. des... Donc, de temps en temps, oui. Puis on parlait du Festival d'Avignon tout à l'heure. Il y a des choses comme ça qui se passent dans les rues, c'est qui est vraiment génial, où tous les musiciens de théâtre, comme ils sont incroyables, ils débarquent, ils se mettent l'un à côté de l'autre, et puis ça... Je le fais juste là, mais voilà.
Ça doit être assez jouissif justement de finir finalement de jouer, de discuter avec d'autres musiciens qui ont la même culture que vous, qui sans un mot en fait vous partez sur un
ouais, c'est ça mais c'est une... vraiment ouais comme vous dites une tradition de culture, on a tous travaillé les mêmes codes, c'est des c'est codes ça. En fait qu'on utilise et qu'on avec lesquels on peut improviser.
Alors on a alors vous avez certainement déjà joué au Music Village,
bien sûr.
qui nous a aussi régulièrement envoyé des musiciens.
J'ai une carte blanche au Music Village en mai, donc tous les mercredis de mai je serai au Music Village.
Et donc ça veut dire quoi, carte blanche, que vous invitez qui vous voulez?
Voilà, c'est à chaque fois des groupes un peu différents.
Voilà, et c'est vraiment sympa le Music Village. Vous connaissez? Vous avez déjà été
dans le centre-ville? Oui.
Oui. C'est le lieu est magnifique.
Rue aux Pierres, quelque chose comme ça.
Rue des Pierres.
Rue des Pierres. Voilà, c'est ça. Le lieu est super et voilà, il y a concert tous les jours de l'année.
Ouais, c'est ça.
On va dire ça. Et tous les mercredis du mois d'avril ou de mai?
De mai.
Il y a Jérémy Dumont avec donc.
Ce sera des formules différentes.
Des formules différentes. Comment vous pourriez définir votre jazz et ses coups?
Ça dépend des formules, mais c'est le jazz que vous pourrez en tout cas découvrir avec mes compositions. C'est quand même, je dirais, jazz moderne peut-être, mais c'est vraiment, ouais, je pense à ces jazz. Il y a des morceaux un peu plus, ça dépend des styles. J'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Avishai Cohen, qui est un contrebassiste que j'aime beaucoup. J'aime énormément Chick Corea.
Qui passe d'ailleurs à tourner, je crois.
Ah, c'est possible. Non, qu'il est
là, dans pas longtemps.
En tournée.
Que j'ai eu l'occasion.
On peut écouter toute ma musique sur Spotify oui. ou aussi. Bon, il y a des CD qui existent. On peut se procurer encore les CD. Si
et
on
des
cherche.
Vinyles.
Et pas encore des vinyles, mais on va peut-être faire un vinyle, tiens. Mais sur toutes les plateformes, en tout cas. Et sinon, pour l'album de Quintet, on peut venir le chercher en live le 12 avril, du coup.
Exactement.
Avec une signature.
Voilà, avec une signature.
Une dédicace. Encore mieux.
Voilà, on se réjouit. Alors, vous nous avez laissé le choix entre deux chansons.
Ah oui, mais après, vous pouvez choisir si vous avez une qui vous touchait plus. Mais j'ai eu du mal à choisir.
On a fait Red Sion.
Ok, Red, bien sûr. C'est le titre de l'album. Voilà.
Ben voilà. On écoute. On en parle après, si vous voulez. C'est la bonne musique, mais apparemment, ce ne sera pas les musiciens que vous aurez sur scène. Donc, il faut venir absolument le 12 avril pour écouter les musiciens actuels, c'est ça? Entre autres, il y aura cette musique-là?
On ne sait pas, surprise.
Voilà. Et donc, Dominique, tant qu'il est là, il va en deux mots vous rappeler son spectacle à lui. Parce qu'il
oui, donc je rejouis le Teatro alla Moda, donc le spectacle sur les coulisses de l'opéra vénitien au XVIIIe siècle, à l'espace Delvaux, la Vénerie, à Boisfort, les 4 et 5 avril prochains.
Voilà, magnifique.
Tout est, voilà, sur le site de la Vénerie, vous avez toutes les infos.
Super.
Et là, voilà. C'est toi qui joues ?
C'est moi qui chante et j'ai mis en scène, j'ai écrit le texte aussi. Ouais.
Voilà, avec un très beau décor, c'est vrai. Hein,
et quelques costumes sympathiques aussi. Costumes, ouais. C'est Venise, c'est le carnaval, donc on s'éclate pas mal. Ouais.
Voilà, et on va passer à Audrey Dérot et à son agneau. Oui. Qui a volé l'agneau ?
Il faut venir voir le spectacle.
Donc c'est un spectacle jeune public.
Oui, c'est un spectacle à partir de 3 ans. mais qui a à voir avec toute la famille et qui est aussi très chouette pour les adultes. Donc c'est vraiment un bon moment à passer ensemble. C'est un spectacle qu'on a créé dans le cadre de l'année Van Eyck à Gand. Donc il y a un musée qui s'appelle le MSK, le Musée des Beaux-Arts, qui nous a demandé de créer un spectacle pour les tout-petits, qui puisse être vu par les petits pendant que les parents allaient faire l'exposition, mais qui a malheureusement été avortée à cause du Covid. Donc l'expo a commencé 2 semaines et puis voilà. Mais nous, on a quand même pu jouer plus tard. Et donc l'idée, c'était comment on parle aux enfants de l'art de Jan van Eyck, donc de cette peinture. Et donc j'avais carte blanche pour faire un spectacle autour de la figure de Jan van Eyck. Et j'ai choisi l'agneau, donc la figure de l'agneau mystique qui est sur le tableau. Et je me suis dit, ce serait chouette de faire une sorte de spectacle où l'agneau ne reste pas sur la peinture, mais part dans une autre peinture. Ça, c'était le pitch de départ.
D'accord. Et donc, ce spectacle existe déjà depuis un petit temps, alors ?
Oui, alors, il existe du coup depuis 2021, juste après le Covid. Il a d'abord été créé en néerlandais. Il y a très peu de paroles, c'est très visuel. On est 2 comédiennes à s'alterner. Donc, il y a moi et l'autre comédienne, c'est Déborah Marshall. On est toutes les deux francophones, mais le texte en néerlandais est très, très basique. Et puis après, depuis 1 an et demi, on a créé la version francophone qui tourne partout en Wallonie. On a aussi été en France. La saison prochaine, on va en Suisse. Voilà.
Et donc, vous allez jouer donc, au Centre culturel Ducle le 20. Donc, il y a beaucoup de scolaires, il y a plusieurs représentations scolaires. C'est quand même extraordinaire de venir à 3 ans avec l'école au théâtre.
Oui, c'est vrai que c'est un public que moi, personnellement, j'adore parce qu'ils sont un peu vierges de tous les codes. Et pour beaucoup, c'est la première fois où ils vont au théâtre. Et il y a quelque chose que j'adore dans le théâtre jeune public, c'est que tout le monde a sa place de spectateurs, quelle que soit l'origine, le milieu social, les finances à la maison, ensemble, pendant le moment du spectacle, on est tous là et on regarde. Et le théâtre jeune public en scolaire permet ça.
Ça veut dire qu'après le spectacle, il y a une discussion sur quelque chose ? Il y a un projet pédagogique ?
En tout cas, alors avec les 3 ans, c'est un peu compliqué d'avoir ce qu'on appelle des bords de scène, voilà. Mais par contre, on propose la peinture de Jan van Eyck. Donc quand ils sortent, ils peuvent voir la peinture de Jan van Eyck. Et il y a des éléments qu'on utilise de cette peinture dans le spectacle. Donc c'est vraiment, on a découpé des personnages, des peintures qu'on utilise comme personnages dans notre spectacle. Et donc les enfants peuvent venir regarder
le tableau.
Le tableau, voilà. Et il y a aussi un nouvel agneau sur la peinture. Donc l'agneau est parti, donc il y a un trou dans la peinture. Pendant tout le spectacle, on cherche à remplir ce trou. On ne trouve pas l'agneau, qui est effectivement parti dans une nouvelle peinture, mais on trouve un nouvel agneau. Donc ça, je ne vous dis pas qui ou quoi l'agneau, voilà. Et voilà, et donc à la toute fin, les enfants peuvent venir voir ce nouvel agneau, regarder la peinture. Et en tout cas, ce spectacle, pour moi, comme c'est à partir de 3 ans, c'est vraiment une ode à la fantaisie, c'est une ode à la liberté. On a pris la figure du peintre, par rapport à Jan van Eyck, on parle de Jan le peintre, parce qu'un enfant, quand il a 3 ans, il ne sait pas ce que c'est l'art, il ne sait pas ce que c'est un musée, mais des crayons, du papier, des ciseaux, il a à la maison. Donc en tout cas, c'est une ode à cette fantaisie, et je trouve que dans le monde actuel, voilà, proposer de la poésie et de la beauté, c'est quelque chose de très
important. En tout cas, dessiner, ils savent ce que c'est ce qu'ils font le plus dans leur vie, voilà, en tout cas, à 3 ans, 4 ans.
Donc c'est vraiment à hauteur d'enfant. Et alors, pour les adultes, c'est un peu jouissif parce que comme eux, ils ont les codes de la peinture, ils ont les codes de Jan van Eyck.
Ça, parce qu'il ne faut pas que les parents s'embêtent quand même.
Voilà, non, voilà. Et il y a vraiment ces deux... Deux niveaux lecture, parce que c'est vrai qu'Yann Van Eyck, il y a beaucoup de codes au niveau de la picturale, de codes religieux. On retrouve des références à Jésus. Et donc ça, dans le spectacle, il n'y a pas du tout. On part vraiment des personnages et on raconte l'histoire. La maman de Yann, c'est, hop, on a été découpé une vierge. Ça, c'est la maman de Yann. Donc il n'y a pas du tout ces références religieuses-là. Et par contre, l'adulte s'amuse des codes détournés, de voir que la grand-mère de Yann, elle a une sorte de coupe un peu bizarre qui représente les coiffes que les dames du 15e siècle avaient. Voilà, donc on joue avec ces codes-là.
Alors, Michael et Jérémy, votre première pièce de théâtre, c'était à quel âge?
Alors, première pièce, où je crois que c'est avec l'école, entièrement raison, c'est les scolaires. Mais je ne sais absolument plus du tout.
Jérémy
Ça devait être aussi, peut-être sans doute avec l'école, mais j'ai fait un peu de théâtre, moi, à l'école de la scène quand j'étais plus petit. Donc j'avais fait des comédies musicales.
Des comédies musicales, c'est ça. Ah oui, mais, donc, oui, mais ça, c'était en tant que.
Oui, j'imagine à l'école, petit.
C'est nos premiers spectacles. Moi, j'ai dû aller voir ma sœur, à mon avis, qui faisait nos premiers spectacles, et inversement.
Mais il y a de plus en plus de spectacles jeunes publics. C'est vrai, hein, il y a vraiment, entre guillemets, un créneau. Il y a de plus en plus d'endroits qui accueillent les spectacles jeunes publics. Et je trouve que c'est le créneau qui est le plus créatif. Les spectacles jeunes publics, tout est autorisé. Je ne sais pas. Par l'appel, oui, peut-être.
Mais... On a énormément d'ados qui viennent à partir de 14-15 ans. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec le bouche-oreille en France. On a eu, au départ, j'avais un public de théâtre, mon public. Et puis après, les parents viennent avec leur ado, parce que c'est très décalé. Et donc, on s'amuse à se faire peur. Les enfants aiment bien se faire peur. Enfin, ce n'est pas les jeunes publics. Mais pour les ados, ça fonctionne très très bien. Après, les enfants, de 3-4 ans, moi avec les miens, j'ai toujours été au Festival d'Avignon, j'ai été voir des spectacles jeunes publics, puis très très vite, on a vu 5-6 spectacles, puis comme je reste là tout le monde, on s'est dit on va y voir d'autres pièces. Les enfants aiment beaucoup aussi voir des pièces de théâtre, ils comprennent pas tout,
non,
mais s'il y a du rythme, s'il y a surtout des spectacles de théâtre avec de la musique par exemple, mais ça, voilà, c'est tellement créatif, ils sont tellement plein de choses,
qu'ils sont contents.
Ils s'amusent et ils découvrent qu'on peut faire plein de choses avec la voix, avec la musique, avec les gestes, avec les décors. Et donc, et puis ça leur donne l'envie de plein de choses. C'est comme les spectacles jeune public que vous faites. C'est certain que ça donne l'envie peut-être à une vocation. Hein. Une fois qu'on aime beaucoup un spectacle, on dit voilà. Comme quand on va au premier concert c'est la même chose. Hein. On met pied à l'étrier, c'est tellement important.
Oui, tout à fait. Moi, évidemment, je les emmène. Tous les spectacles qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'il faut respecter l'âge. Quand il y a des 3 ans, c'est pas 2 ans. On n'a pas les mêmes compréhensions. Mm-hmm. Quand c'est 6 ans, c'est pas 4 ans. J'ai déjà essayé. Ça marche pas en fait. Il faut vraiment respecter les âges. C'est pas qu'ils s'embêtent, ils sont là, mais ils comprennent pas tout. C'est sûr quoi.
Oui,
mais ils sont au spectacle
ça
quand même.
Si les enfants vont voir un fado hyper rythmé avec de la musique, avec des portes qui claquent, ils rigolent parce qu'ils sont surpris et la compréhension des fédos est assez facile.
Mais en tout cas, pour les tout petits, parce que c'est vrai que pour les ados, c'est différent, mais pour les... on voit vraiment la différence entre les 2 ans et demi et les 3 ans. Et pour l'agneau, c'est vrai que 3 ans est vraiment préférable. Parce qu'il y a des choses... les 2 ans et demi, par exemple, s'ils ne voient pas des parties de corps, ça peut vraiment les effrayer. Et donc, comme c'est une première expérience, il faut vraiment soigner...
Oui, mais si c'est un spectacle pour enfants, on découpe les corps. évidemment. Alors, vous pouvez venir jouer avec moi dans le coup de pelle. Hein.
C'est ça. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est vrai que comme c'est une toute première expérience,
oui,
c'est hyper important de bien soigner.
Oui.
Et comme vous dites, effectivement, en tout cas, pour les petits, il y a vraiment des étapes dans la
compréhension. Oui, dans la compréhension.
Et
dans les jeux de mots, par exemple.
Voilà.
Déjà, dans la longueur du spectacle, ça dure combien de temps?
Ça dure 40 minutes.
Voilà. Donc, pour les petits, c'est moins long. Ils ne tiennent pas assis.
Enfin, oui, c'est
une pas assis. Ouais, une heure, il tient pas. Moi, elle tient pas assis. Mais bon, vous savez qu'ils bougent, hein, de toute façon.
Oui, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, pour les petits, et c'est normal, ils écoutent avec leur corps, donc ils se lèvent, et c'est chouette les réactions. Oui. Il faut surtout pas. Chut. Donc ça, mais c'est vrai que l'âge, c'est 2 ans et demi, c'est trop petit
c'est
pour ce spectacle-là. Et 3 ans, c'est parfait.
Oui.
Voilà.
Parce que moi, en tant que mère et grand-mère, on a toujours l'impression qu'ils comprennent beaucoup mieux que les autres et qu'ils sont très avancés de pour leur âge. Et que donc, oui, exactement. Mais ça ne marche pas. On va écouter de la musique. Oui. Alors, l'avantage de faire choisir les invités, c'est que ben, on découvre des choses. Donc,
oui.
Alors, avec vous, on va alors, Last Dinner Party.
Oui, Nothing Matters.
Bon, on écoute. Vous nous direz les autres si vous connaissiez.
Have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin.
Voilà, on papotait, on se disait que voilà, Michael fait travailler ses enfants.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que mes enfants montaient sur scène. Michael. Et c'est les premières parties de mes spectacles. C'est pas la même chose. Et ils s'amusent comme des fous.
En tout cas, emmener les enfants au spectacle, de toute façon, voilà, pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils comprennent les codes, qu'ils sachent que c'est pour tout le monde,
c'est
que c'est amusant.
Les public,
que...
Ça, j'en suis. Et, ou des concerts. Il y a plein de concerts. Et parfois, bon. C'est plus facile d'amener, je trouve, à des concerts parce que, évidemment, même des concerts pour adultes, bon, ben, même ils ont 3-4 ans, ils s'amusent parce qu'il y a de la musique. Et quand c'est un spectacle pour enfants comme vous faites, c'est vrai que c'est magique pour eux parce que le lendemain, ils refont le spectacle.
Exactement. Alors, on a des places à vous offrir. Donc, si vous voulez venir voir Jérémy Dumont le 12 avril au Centre culturel Ducle, sur la page Facebook de l'émission, donc Judaïka Culture Club, vous nous envoyez un petit mot en message privé, et on fera un petit tirage au sort. Et également pour l'agneau, donc à partir de 3 ans, pour le mercredi à 16h, c'est
oui,
ça le 23.
C'est la tout publique, voilà, au Centre culturel Ducle.
Et on a aussi des places pour une humoriste canadienne qui s'appelle Virginie Fortin et qui, elle, vient le samedi 6 avril, toujours au Centre culturel Ducle. Là aussi, ben voilà, on vous offre des places.
Moi, il n'y aura pas de place gratuite, non, sauf
si vous trouvez la pelle.
Une pelle qui est caché dans Bruxelles, où il y a un code, vous l'envoyez sur Facebook, Michael Dufour, Solène Delannoy, ou la page de Coup de Pelle. Vous trouvez, vous avez en plus le restaurant, le champagne et la nuit d'hôtel.
Alors, oh, je te laisse le micro donc, pour rappeler la date, the date.
Alors, on est le 18 avril au Centre culturel d'Odergem. On revient le 28 décembre également. Et puis, on est partout en Belgique jusqu'à fin avril. On est au Festival d'Avignon. Et puis après, on...
C'est ça. Et donc, on va sur la page Facebook de...
Oui, Facebook, le coup de pelle ou ticketmaster.be. Voilà. Vous avez toutes les
dates. On a toutes les dates. Pour Jérémy Dumont, alors, donc.
Ben donc, spécialement pour le 12 avril au Centre culturel Duc, là, avec Godwin Louis. Sinon, il y a plein d'autres dates dans cette tournée, mais ce ne sera pas vraiment à Bruxelles, mais c'est bon, en Europe, en France, au Sunside, à Paris, Jamboree, dans tous les clubs un peu sympas, on va dire. Et sinon, sur mon Instagram, déjà, Jérémy Dumont, on peut trouver toutes les dates, etc. Et sinon...
Et au mois de mai.
Ah, et au mois de mai aussi. Alors, le 31 mars, je serai au Music Village. Et puis, tout le mois de mai, le mercredi, au Music Village aussi.
Génial. Et donc, l'agneau, il a aussi une belle tournée.
Oui. Donc, le 23 avril, au Centre culturel Duc, à 16h. On sera aussi à Bruxelles, à la Roseraie, vers fin juin. Il faut regarder sur le site de la Roseraie. Et alors, oui, on tourne un peu partout. Braine-le-Comte, Braine-l'Alleud. Voilà.
Et donc, est-ce qu'on peut. On peut regarder le...
Je ne suis pas très à la page au niveau des dates.
D'accord. Non, on tape voilà. L'agneau en un mot. Oui, il n'y a pas de L apostrophe, c'est en un mot.
C'est en un mot. Et alors, c'est Audrey Doreau / Viro. C'est la compagnie qui coproduit avec moi. Donc, 4-H-O-O-G.
Et Doreau, c'est D-E-R-O.
Tout simple.
Tout voilà. Simplement. Ouais. Voilà, en tout cas, magnifique. Est-ce que vous avez envie de nous parler d'un autre spectacle que vous avez vu, que vous voulez nous conseiller? Est-ce que vous avez le temps encore d'aller au spectacle, voir d'autres choses?
Oui, j'ai vu... Enfin, moi, je joue dans plein de groupes différents. Ah. Donc, je vous propose d'aller voir plein d'artistes sympas, comme différents du jazz, peut-être. Un rappeur qui s'appelle Pete, qui joue ici à Bruxelles, souvent, qui est très chouette. Sinon, j'ai été voir aussi le concert de Marca. Je sais pas si vous connaissez Marca.
Et il vient justement le mois prochain.
Il vient le 25 mai à l'Ancienne Belgique. Et justement, à propos des enfants, et moi, c'est mon fils qui fait sa première partie.
Ah, parce
qu'il joue très bien au piano. Mon fils qui s'appelle Aaron, et donc il fera la première partie de Marca.
Magnifique.
Et moi je vous conseille d'aller voir, alors programme au mois de décembre, La Machine des Enfants. C'est un robot qui fait une compétition avec un chanteur, donc c'est une grosse machine géante avec un chanteur, et donc c'est un concert avec des comptines, c'est à partir de 4-5 ans, et c'est un spectacle, c'est Mathieu Martin qui fait ça, j'étais voir avec mes enfants, c'est exceptionnel.
Et c'est où?
Et c'est au Centre culturel d'Odergem, je crois que c'est fin décembre, il est aussi un peu en Belgique, à gauche, à droite.
Décembre?
Ouais. Oula, oui. Enfin, retenez, allez voir, si vous entendez La Machine des Enfants, j'ai vu aussi au Festival d'Avignon, allez voir ce spectacle pour les petits bouts, c'est vraiment très très drôle.
Merci beaucoup, au revoir tout le monde et bon spectacle.
Merci,
à tous.
À
la semaine prochaine.